15h, 16h.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour Aurélie, bonjour Clémence.
Bonjour Mélanie.
Alors, pour débuter cette semaine, on a dit que vous allez nous aider à retrouver une belle harmonie familiale. Que de promesses pour nous, Jimmy et moi, tous les deux parents de plusieurs enfants. On vous attendait avec impatience. Vos conseils, très concrètement, ils s'adressent à qui, ceux qu'on trouve dans votre livre? À quel type de famille? Est-ce que c'est vraiment forcément des gens qui ont des enfants très turbulents ou c'est finalement pour tout le monde?
Pas forcément, on a un peu tout type de famille. On va dire que le motif qui fait que les gens poussent la porte du cabinet, c'est quand ils commencent à manquer un petit peu de moments de plaisir avec leurs enfants. Ils ont l'impression qu'ils se fâchent beaucoup.
Ouais, ça nous parle, Jimmy.
Et donc ça, c'est une des principales raisons qui pousse les gens à consulter, simplement ça? Ou il y a d'autres raisons qui peuvent faire que les parents décident de franchir le cap?
Clémence, peut-être?
Alors nous, on est psychologue, du coup, on a aussi le droit à tous les symptômes de manque de confiance en soi, de dénurésie, de pipi au lit, de disputes, de rivalité. C'est vrai qu'on a élargi le champ un peu classique de la psychothérapie à l'élargir à la famille. Et donc, on va aider aussi les gens pour passer un divorce ou pour les rivalités entre frères et sœurs qui peuvent nous pourrir un peu la vie tout le week-end. Voilà, on s'est vraiment élargi et aujourd'hui, je dois dire qu'on a des motifs...
Varié,
c'est un véritable éventail.
D'accord. À partir de quand justement il faut consulter d'ailleurs? Parce que bon, avoir des problèmes en famille, on en a tous. Élever des enfants, c'est pas facile, surtout quand on travaille en même temps. Est-ce qu'il y a des, marqueurs, par exemple, quand ça commence à parasiter le couple, par exemple? Ça, c'est un moment où on se dit, tiens, là, il faut consulter quand dans le couple, ça va plus.
Oui, alors ce qui est certain, c'est que nous, on essaie
à cause des enfants, bien sûr. Hein, ouais.
À cause de tout. Tout le monde est important, justement. Nous, on essaye vraiment de déculpabiliser les gens et de pousser la porte. Souvent, une consultation, deux consultations, ça fait déjà un bien fou de se sentir compris. Puis alors nous, on n'est pas des donneuses de leçons en disant trop fastoche, chez moi j'y arrive hyper bien. Vraiment, nous aussi, on trouve que c'est difficile. Les journalistes aussi qui nous intéressent sont toujours contents. Ils nous disent c'est vrai que c'est dur. C'est dur pour tout le monde. Le monde aujourd'hui, il va très vite. Les enfants vont très vite. Voilà. Et puis les nouvelles règles éducatives veulent qu'on fasse moins de punitions. On ne met plus un enfant dans sa chambre pendant 2 heures.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles non plus. Hein.
Pas du tout, au contraire. Mais il faut se réadapter. Et ce n'est pas forcément ce qu'on a reçu quand on était enfant.
Alors Aurélie, Clémence, on va d'abord commencer par les problèmes du quotidien. Hein, parce que c'est ça qui nous intéresse quand même au maximum. Un moment qui est particulièrement apprécié ou même redouté, c'est un peu les deux, hein. C'est quand on les retrouve le soir, les enfants, après le travail, parfois, on est déjà un peu fatigué, c'est presque une deuxième journée qui commence, et c'est un moment où il y a beaucoup de conflits, hein. Ça cristallise un peu les conflits, Aurélie, Clémence, qui commence. Aurélie ?
Oui, alors c'est vrai que parce qu'en fait, ce qui est compliqué au niveau du soir, c'est que les parents rentrent généralement assez tard et qu'on a un peu ce stress de ne pas coucher les enfants trop tard, sinon ils vont être fatigués et que les parents ont aussi besoin de leur soirée. Donc on essaye en 1h30 de temps de faire le repas, le bain, les devoirs, le coucher et les enfants...
On est content de les retrouver, mais c'est souvent un moment difficile. Hein.
Mais parfois, on est un peu pressé aussi de les coucher parce qu'on est crevé.
C'est ça.
Aussi.
Ouais. Et alors du coup, qu'est-ce que vous conseillez pour rendre ce moment? Puisque bon, c'est 1h30, il y en a qui ont la chance d'avoir un peu plus de temps, mais quand on n'a qu'une heure et demie, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce ne soit pas cataclysmique cette heure et demie avec eux, quoi?
Ce qui est important, c'est déjà toutes ces choses obligatoires du quotidien, se laver les dents, les devoirs, le bain, enfin ça c'est ce qu'on va être amené à faire avec eux pendant 15 ans. Donc quand ils sont encore petits, donc effectivement jusqu'à 8-9 ans, on ne dira pas pareil pour des ados, mais en tout cas quand ils sont petits, c'est de passer au maximum par le jeu. C'est-à-dire que toutes ces choses du quotidien qui sont pas tous, enfin c'est pas tous les jours rigolo de faire le repas, les devoirs. Il faut essayer de rendre ça le plus rigolo possible, comme ça dans ce temps qu'on a avec les enfants, même s'il ne dure qu'une heure, si on passe tout ça plus par le jeu, ça reste un moment de complicité.
Comment on fait le repas en jouant alors avec eux? On le fait avec eux du coup?
Parce que très souvent les parents disent vous avez un temps calme, vous pouvez vous poser pendant que je fais le repas, et c'est là que les frères et sœurs commencent à se disputer, qu'on doit intervenir.
Ouais.
Donc même s'ils sont petits, on les prend à côté de nous, même si c'est juste pour verser du gruyère râpé dans un bol. Peu importe, ils adorent tripoter, mais on est tous dans la cuisine, il y en a un qui tient le truc de recette. Enfin, il faut vraiment les faire participer au maximum.
Jimmy ?
Alors moi, j'ai 3 enfants. Donc, ça commence bien.
D'où les cernes.
Voilà.
On relève tous les challenges.
Mais le deuxième, c'est une terreur. Peut-être, je me dis que le premier, on lui donne beaucoup d'attention parce qu'il y a l'école et on veut qu'il réussisse. Le dernier, c'est le dernier, c'est le chouchou. Et le deuxième, et finalement, il est un peu entre tout le monde. Est-ce qu'un enfant qui ne serait pas un peu turbulent, c'est un enfant qui demande de l'attention finalement pour qu'on s'occupe de lui et voir jusqu'où on serait prêt à aller pour qu'il se rende compte qu'il existe?
Clémence ?
Tout à fait, oui, ça arrive souvent. Alors, on parle souvent du complexe de celui du milieu. Nous, on n'aime pas trop ça, on essaye de s'en éloigner. Mais en tout cas, ce qui peut être pratique pour vous et en tout cas donner des résultats assez rapidement, c'est d'essayer de ne pas relever quand ça ne va pas et de faire une tonne de démonstrations quand ça va. Quitte à surjouer un tout petit peu, mais en mettant quand même un brin de sincérité. Mais quand ils sont sages, on a du mal à le relever. Et parfois, celui-là Je crois que vous m'avez dit tout à l'heure, je vous ai demandé vos âges, je crois qu'il a 4 ans, celui du milieu.
Ans, ouais.
On peut aller lui dire, tu sais, ce soir...
C'est bien, t'as pas tout cassé aujourd'hui.
En allant se coucher, ça prend 30 secondes. J'ai été super fière de toi. On a passé une soirée qui était vachement douce, vachement calme, il y a eu moins de disputes. Je t'ai vu jouer, j'ai bien vu que tu avais colorié. Vous voyez, j'en fais des tonnes et en même temps, je suis sincère. Je n'exagère pas, mais en tout cas, je vais vachement noter. Ça ne nous empêchera pas, évidemment, de lui dire attention à la prise électrique. Mais
l'autorité, ça ne fonctionne pas. Enfin, je veux dire, l'autorité telle qu'on l'entend, Jimmy, punir celui du milieu qui est plus dur que les autres, le punir, j'en sais rien, de ce qu'il aime, ça ne marche pas, ça.
Non, la privation, malheureusement, ça ne marche pas. Dans nos grandes astuces, on essaye d'aider les gens à poser des punitions qu'on va essayer de dire positives. Quand on répond à 4 règles un peu bienveillantes, ça ne devient plus des punitions, mais des conséquences. Votre enfant, il doit être au courant de la conséquence avant les problèmes. Ça ne doit pas lui tomber sur le coin du dos. Vous, quand vous perdez 4 points sur votre permis de conduire, vous le saviez, on ne vous le dit pas, caché derrière le feu rouge. On sait à quoi on s'attend.
Donc là, on dit quoi, par exemple, à un enfant, je ne sais pas, turbulent, qui tous les soirs va chercher des noises à son grand frère? Là, par exemple, c'est quoi la règle positive?
C'est un peu large, mais peut-être on va choisir la chambre ou le dîner ou quelque chose comme ça. Si à table, vous vous disputez tous, alors on n'arrivera plus à manger tous les 5 et vous mangerez tous les 3 dans la cuisine demain. Je vais juste finir les 4 règles pour vous montrer comment ça marche. Il faut que ce soit court, c'est-à-dire qu'on ne va pas le priver, par exemple, de dîner en famille pendant un mois. On va juste faire un dîner. Et comme ça, le jour d'après, on va reprendre ce qui est plus sympathique.
Surtout à 4 ans, ça ne sert à rien. En fait, à 4 ans, un enfant sage, globalement, de toute façon, ça n'existe pas.
Enfin, non, un enfant obéissant est un enfant malheureux.
Quelqu'un qui vient vous voir en consultation en vous disant « je veux que mon enfant soit sage », vous dites « bah non ».
On dit « c'est pas réaliste en 2020 ». Il n'écoute rien, je voudrais qu'il obéisse, ça n'est pas réaliste.
Par contre, un enfant qui peut être couché à 19h, à 20h, pour que Jimmy dorme, ça c'est possible, arrive à mettre des choses en place pour que les choses se passent mieux.
Tout à fait.
Mais il sera toujours turbulent, un peu, c'est un enfant.
Tout à fait, mais ce que disait tout à l'heure Aurélie aussi en parlant de mettre du jeu, après nous on demande aussi beaucoup aux parents de ne pas mettre toute leur énergie dans 50 combats en même temps. Vous allez faire un mois sur l'hygiène dentaire, et ça va être la semaine de l'hygiène, et on va faire un grand challenge dans la famille, qui se lave les dents le plus longtemps, etc. Et puis après on va se tenir bien à table, et puis après on va être doué avec les copains, et puis après on va faire le sommeil. On ne peut pas être sur leur dos toute la journée voilà, jusqu'à leurs 18 ans, ce n'est pas possible.
Aurélie, Clémence, on n'en a pas terminé, surtout vous restez avec nous. De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et nos invités Aurélie Calais et Clémence Promsy. Elles sont psychologues et fondatrices du cabinet Kids and Family. Aurélie, Clémence, on va passer à une autre période qui est un peu critique avec les enfants, un petit moment parfois compliqué. Le matin, on se réveille, je parle les matins de semaine où il y a école, le travail, on est pressé, dépêche-toi, lève-toi. C'est un moment qui est très compliqué. Comment on gère ça, notamment l'enfant qui ne veut pas se lever, par exemple. Je ne veux pas me lever, je veux encore dormir. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la parentalité positive, toujours
Peut-être le lever un tout petit peu plus tôt avec une playlist de musique qu'il aime bien. Ça va un petit peu éveiller son cerveau tout doucement avec ses petites chansons préférées, soit toutes douces, soit au contraire hyper funky. Mettre ses habits sur le radiateur pour qu'elles soient bien chaudes. Le froid, ça endort. Le chaud, ça réveille.
Donc pas mal, ça.
Du froid le soir et le chaud le matin. Vous n'hésitez pas, si vous faites un premier passage, à remettre une deuxième couette. Plus ils auront chaud et plus leur organisme se réveille doucement.
D'accord.
Puis moi, mon astuce préférée, ça a toujours été de mettre un réveil qui veut dire « rendez-vous dans l'entrée ». Et qui même me suivent, c'est l'heure où on met ses chaussures. Donc tu viendras pieds nus si tu veux, je les prendrai à la main. Mais ça, et voilà, je mets un chien sur mon iPhone qui aboie très fort. Et maintenant, c'est tout le monde, ils arrivent, ils savent qu'en fait, il reste vraiment que 5 minutes. Quoi.
C'est pas mal l'alarme du chien, hein, Jimmy, ça vous parle. Allez-y, oui. Jimmy.
Alors c'est vrai que chez les Mohamed, c'est la bagarre.
notamment chez les trois garçons.
Chez les Gomez aussi, je vous rassure. Et notamment au moment du repas. Et comment est-ce qu'on peut faire avec des enfants qui refusent de manger notamment les légumes? Ou même finalement parfois des plats qui ont l'air très très bons et qu'on a pris du temps à cuisiner et que l'enfant refuse catégoriquement. Est-ce que vous avez des petits conseils?
Alors déjà, c'est important, si jamais vous êtes là, qui vous aide à la préparation du repas. Souvent, en fait, si jamais déjà ils ne sont pas à l'aise sur le fait de manipuler les aliments, déjà de laver les haricots verts, de les couper.
Moi, j'ai déjà essayé, mais elle dit beurk, pas bon ça. Elle me lave, mais elle dit c'est pas bon ça.
Alors après, il faut essayer selon l'âge des enfants. Ce qui est important, en tout cas, c'est de rendre pareil l'assiette rigolote. Et pour ceux qui ont du mal à manger, très souvent, les parents font des énormes quantités. Donc l'enfant est complètement découragé en fait, devant l'assiette qui paraît être énorme. Donc la bonne astuce, c'est que si vous avez un plateau à fromage rond, vous sortez ça et vous mettez une quantité minuscule au milieu. Enfin, visuellement, l'enfant va se dire, en fait, il n'y a rien dans mon assiette.
Ça, ouais, un tout petit
donc,
bouquet
plus
de brocoli.
Plus vous prenez une assiette grande, mieux c'est. Après, il y a des petits plateaux assez rigolos, en fait, qui sont comme un jeu de loi. Je sais pas si je peux donner le nom.
Oui, ouais. Bien sûr.
Okay. Ça s'appelle Winner Dinner. C'est un petit plateau comme un jeu de loi. Il y a pour les garçons, pour les filles. C'est mini quantité. Et l'idée, c'est de faire toujours un aliment ami, toujours quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Et en fait, voilà, il doit passer par chaque case. Et à la fin de la dernière case, il y a un petit truc à soulever avec une petite surprise.
Autre moment un peu difficile, les devoirs. Alors là, on est chez des enfants un peu plus grands, mais admettons 8-10 ans. Il ne veut pas faire ses devoirs. Le soir, c'est non, je ne veux pas faire mes devoirs. Pas tout de suite, après, je les ferai plus tard. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil, Aurélie, là-dessus ?
Alors, c'est vrai que les devoirs, c'est clairement, moi, je trouve, ce qui cristallise le plus les conflits avec ses enfants.
Moi, j'essaie de lui faire faire à l'étude pour pas m'en occuper.
Alors, quand on peut, l'étude n'est pas une mauvaise idée.
Moi, il y a des gens formés qui lui font faire.
Et on check et on vérifie. Après, ce qui est important, c'est de ne pas se laisser trop déborder par le temps. Pour les devoirs, c'est pas mal de bosser avec les enfants avec un accessoire qui s'appelle un time timer.
C'est quoi ça ?
En fait, c'est une espèce de réveil, mais contrairement au minuteur ou au sablier, en fait, où on se rend pas, ça sonne quand c'est terminé, le minuteur. Le time timer, en fait, c'est une zone rouge qui va diminuer. Donc, en plus, c'est assez gros, ça fait genre 8 cm. Vous le mettez devant le bureau de l'enfant et dire, OK, donc ce soir, il y a maths français, par exemple. Mm-hmm. Donc, les maths, tu penses qu'on peut les faire en combien de temps ? 10 minutes, OK.
Il se met un petit défi
timer
comme ça,
sur 10, ouais. 10 minutes. Allez, il faut qu'on ait fini, en gros, avant qu'il n'y ait plus le rouge, il faut qu'on ait terminé. On peut tout à fait aussi, avant de commencer, dire, OK, on fait les règles des devoirs. Tous les deux, on promet, moi, je ne me fâche pas et toi, tu mets de la bonne volonté et plus vite on a fini, plus on a de temps
chose.
Pour faire
ouais.
un jeu. Enfin, voilà.
Jimmy ?
Bon, en ce moment, il y a ce qu'on appelle les vacances scolaires, qui sont plus proches de la torture quand on a des enfants et qu'on ne part pas en vacances, parce que tout le monde ne peut pas partir tout le temps en vacances. Et on est encore plus fatigué qu'au début, un peu au bout de notre vie, prêt à abandonner les parents. Est-ce qu'il y a des moyens pour éviter de passer des moments si compliqués ? Même si on essaie de faire des activités, évidemment.
C'est censé être reposant, les vacances, et pour les parents, ce n'est pas toujours le cas, on est d'accord ?
Non, pas vraiment. Mmh. Enfin, non, vraiment pas même. Mais déjà, ce qu'il faut se dire en tant qu'en famille, c'est d'essayer de ne pas viser la perfection. C'est vrai que c'est quand même très compliqué. On a peut-être des souvenirs d'enfance où on a enlevé les choses mauvaises, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il ne faut pas viser la perfection, il faut chercher les petites miettes qui vont bien. Parce que ça va passer très vite, que dans 5 ans, finalement, ils ont tous 13 ans et qu'il n'y a plus personne à la maison, ils font du skateboard toute la journée, on les voit plus. Donc malgré tout, il faut qu'on en profite. On les a quand même fait pour faire une famille et voir nos enfants.
Bien sûr.
Donc il faut juste chercher les petites miettes qui vont bien et pas viser la perfection. Parce que quand on cherche la perfection ou la nostalgie de notre enfance et la perfection de nos pistes de ski, c'est la cata et ça ressemble pas du tout.
Et comment on s'y prend ? Alors vous dites on cherche pas la perfection, ça je comprends bien, mais comment en tant que parent, quand c'est les vacances, on a aussi besoin de se reposer un peu ?
On peut
comment
dealer.
On arrive à se reposer avec des enfants 24 heures sur 24 ?
Comme disait Aurélie sur le deal des devoirs, on peut dealer sur moi j'ai, avec papa on a besoin de se reposer et vous avez besoin de vous amuser. Donc comment on va faire pour que moi je crie moins et que toi tu t'amuses plus ? Je propose qu'il y ait ça, ça et ça de cool. Si on est au ski, la luge, un resto en famille et 3 soirées dessins animés, peu importe. Mm-hmm. Par contre, nous, on a besoin de 3 soirées cool où vous mettez dans votre lit et vous lisez un petit livre ou je sais pas quoi, je dis n'importe quoi, mais on va essayer de dealer pour que chacun a le droit d'exister, en fait. Les parents ont le droit de se reposer,
on a le droit, c'est
et
ça.
Et puis, si vous pouvez, vous essayez de trouver une conséquence. N'hésitez pas, que ce soit l'été ou l'hiver, à le premier jour, aller à l'office du tourisme, chercher le club Mickey en disant on est bien d'accord, madame, que s'il y a vraiment des gros problèmes, nous pouvons encore inscrire notre enfant demain au club Mickey. Et bien sûr, jamais menacer un enfant de faire quelque chose qu'on ne pourrait pas faire, mais si on passe une trop mauvaise journée au ski ou ailleurs ou chez sa grand-mère, et ben tant pis, on va rester tout l'après-midi ici, à deux. Et voilà, et entre guillemets, tout le monde est puni et demain, on passe une meilleure journée.
Jimmy ?
Un mot peut-être sur les écrans. Est-ce qu'il faut être encore plus strict pendant les vacances ? Qu'on a tendance parfois un peu à se relâcher ou même le week-end à les exposer un peu plus, alors que peut-être qu'il ne faudrait pas ?
Nous, toutes les deux, avec Clémence, on n'aime vraiment pas dire aux gens ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, parce qu'on estime que voilà, on a déjà beaucoup de règles dans la vie et qu'avec ses enfants, c'est chouette que chacun puisse être libre de faire comme il a envie. Donc vraiment, l'idée, ce n'est pas de culpabiliser les gens. En gros, les écrans, ce qui est important, c'est que ce ne soit pas une source de conflit quand il faut les couper.
Mais en vacances, on a tendance à les laisser un peu plus. Hein. C'est vrai que moi, habituellement, en semaine, il n'y en a pas. Pendant les vacances, je laisse un peu plus la tablette.
Mais ce qui est bien, c'est de lui expliquer. Dire là, c'est des vacances, c'est exceptionnel. Quand ce ne sera plus les vacances, quand tu reprendras l'école, on reprend la règle des écrans. C'est un épisode le mercredi et un le dimanche matin. En fait, il faut toujours expliquer les exceptions.
Et pendant les vacances, pour terminer, les parents ont aussi le droit éventuellement de les envoyer chez les grands-parents. On peut aussi faire ça de temps en temps, sans culpabiliser trop. Clémence ?
Oui, alors quand on a la chance d'avoir des grands-parents, on peut carrément les envoyer chez les grands-parents. Et c'est super, c'est le repos du guerrier pour les parents. Très bonne idée même. Il ne faut pas oublier de prendre soin de votre couple, parce que la famille tient sur le couple en fait. Les enfants, les pauvres, c'est juste un moment difficile à passer pour eux. Et puis après, ils seront libres, ils feront ce qu'ils veulent. Mais nous, il faut qu'on tienne le coup et qu'on tienne la route.
Merci beaucoup Aurélie Kellé, Clémence Prompsy d'être venue sur notre plateau nous donner quelques conseils pour rétablir une belle harmonie familiale. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Je ne veux pas ». Aux éditions Au fil de soie. Merci encore.
Merci.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Et aujourd'hui on parle de l'amniosynthèse. Savez-vous à quoi sert cet examen que l'on peut avoir à subir durant une grossesse? Comment cela se déroule? Quels sont les risques? Benjamin Lévesque a été vous donner la parole sur le sujet. On écoute son micro-trottoir.
L'amniosynthèse, je ne sais pas ce que c'est. Amnio, je sais pas, ça me fait penser amnésie ou je sais pas, genre l'esprit, enfin, je sais pas, de plus se rappeler des choses. Ou...
Quelque chose qui est lié à la femme quand elle est enceinte.
C'est un test plutôt pour les femmes enceintes pour vérifier si le bébé a la trisomie 21 ou quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas.
Je pense tout ce qui est lié à l'autisme, des malformations, des choses dans ce genre-là.
Dans certains cas, je me demande s'il n'y a pas aussi une piqûre ou quelque chose à prélever pour vérifier, qu'il y a un truc dans le genre. Après les 3 mois, et je dirais peut-être 5 mois.
Bah non, c'est pas fiable, parce que tant que le bébé est pas sorti, on peut pas savoir s'il est en bonne santé.
Ça doit pas être fiable du coup à 100%, comme la plupart des examens à partir de cette période.
Jimmy, alors reprenons du début. D'abord, c'est quoi précisément une amniosynthèse?
Alors, lorsque vous attendez un bébé, le bébé flotte dans un liquide rempli d'eau, ce qu'on appelle le liquide amniotique. Il est dans une petite poche. Ce liquide, il est stérile. Il est essentiellement fait, comme j'ai dit, d'eau, mais aussi de sels minéraux. Mm-hmm. Il contient notamment des cellules fœtales. Et l'amniosynthèse, ça consiste à prélever une petite partie de ce liquide dans le canebine, le fœtus, au cours de la grossesse. On fait ça à l'aide d'une petite aiguille qui est très fine, elle est reliée à une petite seringue à travers la paroi de l'abdomen de la mère. Ça dure à peine 10 minutes. C'est fait par un médecin guidé par une échographie pour être sûr qu'on est en bon endroit. C'est très peu douloureux. La douleur est comparable à celle d'une prise de sang. Mmh. On ne fait aucune anesthésie.
Ça fait peur comme ça, mais ce n'est pas si douloureux.
Et là, on ne fait aucune anesthésie, même locale. Ça ne sert strictement à rien.
Alors, à quoi ça sert cet examen? Pourquoi on peut être amené à passer justement une amniosynthèse?
Ce liquide amniotique, justement, contient des cellules fœtales qui peuvent être ensuite analysées au laboratoire. Ça permet de réaliser ce qu'on appelle notamment un karyotype lorsqu'on recherche des anomalies chromosomiques, notamment lorsque la plus connue, c'est celle de la trisomie 21. Mais aussi, on peut rechercher d'autres choses au niveau des gènes, notamment les gènes responsables de la mucoviscidose, du syndrome de X fragile, qui est une maladie génétique, notamment, qui entraîne un déficit intellectuel. Et puis aussi, on peut retrouver des bactéries ou des parasites. On a parlé de la toxoplasmose. Le diagnostic de certitude se fait par amniosynthèse. Et donc, on peut détecter plein de maladies, de pathologies lorsqu'il y a un pronostic vital pour l'enfant à naître. Et évidemment, ce n'est pas un dépistage qu'on propose à tout le monde
non,
et qui permet de dépister toutes les maladies.
Mais on fait ça à quel moment de la grossesse en général? J'imagine qu'il y a plusieurs fenêtres.
Exactement.
On fait quand?
Généralement, le programme entre 3 mois et 3 mois et demi de grossesse, c'est-à-dire entre la 15e et la 17e semaine d'aménorrhée. Et on peut faire cet examen jusqu'au terme de la grossesse. À partir du moment où on suspecte une pathologie grave pour l'enfant qui est à naître, on peut faire ce geste.
Alors, se faire planter, entre guillemets, une aiguille dans le ventre, ça peut faire très peur comme ça. Est-ce qu'il y a des risques, justement, avec cet examen, quand même?
Alors, ils sont très, très minimes. Évidemment, il y en a toujours. Le principal, c'est celui de la fausse couche. Heureusement, c'est rarissime, mais même quand ça arrive, c'est dramatique.
C'est
moins de 0,5%
ouais,
des cas. Et ça survient dans les 8 à 10 jours qui suivent la myosynthèse. On fait ça dans des conditions de sécurité assez importantes. On désinfecte correctement, c'est du matériel stérile, des médecins qui ont l'habitude de faire l'examen. De très rares cas d'infection à la suite de cette ponction arrivent. Mais le risque principal, c'est la fausse couche. On a dit, c'est 0,5% des cas.
C'est pour ça qu'il faut très rapidement, Jimmy, pour terminer, prendre quelques précautions après. Hein.
Il faut se reposer. On évite de travailler dans la foulée. Pas d'arrêt de travail en revanche. Et puis une activité normale dans les jours qui suivent. Il n'y a pas lieu de faire de surveillance particulière. Néanmoins, si vous avez des contractions, des saignements ou des douleurs abdominales, il convient de consulter en urgence.
Merci beaucoup, Jimmy, pour tous ces conseils. Bonjour docteur Lecornet.
Bonjour Mélanie.
Ravie de vous recevoir une nouvelle fois dans cette émission. Vous allez devenir une habituée, vous venez nous parler des hormones régulièrement. Vous êtes déjà venue nous parler des hormones en général. Aujourd'hui, on fait un point sur la thyroïde et on va parler des différents problèmes autour de la thyroïde, ce qu'elle peut nous causer, en tout cas cette thyroïde. D'abord, on va quand même revenir sur ce qu'elle est précisément, cette glande. Elle ressemble à quoi? Elle est où? Parce que finalement, quand on n'a pas eu de soucis, parfois on ne sait même pas exactement.
Alors, tout le monde a une thyroïde. Parfois, j'ai des patients qui viennent en consultation me dire « Ah docteur, j'ai la thyroïde », mais heureusement, tout le monde a une thyroïde qui est à la base du cou, derrière le nœud de cravate pour nos auditeurs. Ah, je pense que oui, c'est la meilleure manière d'expliquer où elle est. Elle mesure...
On ne la sent pas au toucher. Hein,
non,
on est d'accord,
on ne la sent pas. Elle mesure à peu près 4-5 cm de hauteur sur 4-5 cm de large. Donc, elle fait à peu
c'est
près
pas si petit
20...
que ça. Hein, ouais.
Non, elle fait à peu près entre 10 et 20 cm cubes selon les gens.
D'accord.
Donc, son rôle, c'est vraiment une glande. C'est-à-dire qu'elle fabrique des hormones. Donc, je rappelle que les hormones, ce sont des messagers. Notre système hormonal, c'est un merveilleux système de communication dans le corps. Et donc, ces hormones thyroïdiennes, elles vont aller agir sur plein d'endroits dans le corps pour amener des messages et entraîner des réponses sur certains organes.
Elle a une forme de papillon, je crois, hein, la thyroïde, c'est ça ?
On dit qu'elle a deux lobes, comme les deux ailes du papillon, et au milieu, un isthme, comme le corps du papillon, qui passe au-dessus de la trachée. Et donc, on peut la sentir. Pour certains, même on peut la voir lorsqu'elle est un peu grosse parfois. Et lorsqu'elle est un peu grosse, c'est ça qu'on appelle le goitre dans notre vocabulaire médical.
Jimmy, vous êtes en ligne avec nous aujourd'hui, hein, je précise.
Exactement.
Vous avez un petit problème en consultation, un dernier patient un peu compliqué. Vous n'avez pas eu le temps de rejoindre le studio, mais vous êtes avec nous.
Exactement. Et d'ailleurs, vous avez dit qu'elle régule le fonctionnement de notre corps, mais elle sert à réguler quoi précisément ? C'est-à-dire la tension, le tube digestif, parce que c'est un peu une centrale nucléaire en fait.
Oui, elle régule le métabolisme de notre corps, c'est-à-dire la façon dont le corps va utiliser l'énergie. Ainsi, elle va, par exemple, contrôler le poids. Si vous avez beaucoup d'hormones thyroïdiennes, le métabolisme va s'accélérer, vous allez avoir tendance à perdre du poids. Et au contraire, si vous n'en avez pas assez, tout va être au ralenti et vous avez tendance à en prendre. Et elle va agir comme ça sur plusieurs organes. Par exemple, sur le tube digestif. Ah oui. Elle régule le transit. Donc, quand il y a beaucoup d'hormones, le transit est accéléré. Et au contraire, quand il n'y en a pas assez, il est ralenti.
Et je crois que vous dites, on en a tous, hommes et femmes, une thyroïde. Mais d'ailleurs, il y a une maladie, je crois, de la thyroïde. Enfin, quelque chose qui est dépisté dès la naissance. Parce qu'il peut y avoir de manière une malformation, hein, c'est ça ?
Oui, très rarement, il peut y avoir une hypothyroïdie congénitale. C'est-à-dire une absence de thyroïde ou une thyroïde qui est tellement petite qu'elle n'arrive pas à fabriquer assez d'hormones. Ou alors, elle est mal placée. Et dans ces cas-là, on va le dépister à la naissance, dans les premiers jours de vie. Vous savez, c'est cette petite prise de sang qu'on fait au bout du talon à tous les nouveau-nés avant de sortir de la maternité.
Hein, ouais.
Exactement. Et si jamais on dépiste cette hypothyroïdie, on va mettre en place tout de suite un traitement parce que ces hormones thyroïdiennes, elles sont essentielles pour la mise en place du cerveau chez l'enfant.
Ah oui, donc très important de savoir
oui,
très tôt. Hein, ouais.
Chez le tout petit, si on manque d'hormones thyroïdiennes, ça peut entraîner même des retards mentaux. Et donc le fait aujourd'hui de pouvoir traiter dès la naissance ces enfants, eh ben, ça leur permet de mener une vie complètement normale grâce à un traitement très simple.
Jimmy, vous avez une question ?
Oui, j'ai l'impression de voir beaucoup de patients justement avec des problèmes de thyroïde. En France, ça représente combien de personnes à peu près ?
Alors c'est effectivement des maladies ultra fréquentes. Par exemple, on considère qu'il y a à peu près 3 millions de personnes traitées par des hormones thyroïdiennes en France. Il peut y avoir aussi des nodules, donc des boules dans la thyroïde. Et il y a à peu près, on dit qu'une femme sur deux, après 50 ans, a des nodules dans la thyroïde.
Donc on arrive peut-être encore à 4 millions, enfin c'est énorme.
C'est
des
vraiment
millions
des pathologies,
de Français,
ouais. C'est des pathologies du quotidien.
Mais c'est, les nodules, je crois que c'est quand même quelque chose qui est plus, vous dites les femmes, c'est que les femmes, les nodules ?
Non, alors en fait, les maladies de la thyroïde, de manière générale, sont plus fréquentes chez les femmes. On dit environ 3 femmes pour un homme.
On connaît tous des femmes autour de nous qui ont des problèmes de thyroïde. Enfin, je crois que ça, il suffit de s'interroger autour dans son entourage. On en trouve toujours une. Hein. Et pas souvent des hommes, c'est vrai, mais il y en a. Vous en voyez
en
consultation.
En fait, il y en a. Alors souvent, effectivement, il y a un peu de retard diagnostique parce qu'on y pense moins. Autant les femmes, on va dire, ah, c'est peut-être sa thyroïde, mais les hommes, on va aller chercher moins souvent.
Et vous, dans votre consultation, les hommes, ça représente quelle part de
C'est à peu près ça aussi. Un quart d'hommes, trois quarts de femmes.
Et ils ont quel âge, vos patients ? Parce que la thyroïde, bon, on a compris, il peut y avoir des problèmes dès l'enfance, même si c'est rare. Mais une fois adulte, est-ce qu'il y a une tranche d'âge qui est plus...
Oui, alors le pic de fréquence, c'est vraiment la cinquantaine, clairement. Mais chez les femmes, notamment pour les dysfonctionnements, il y a également un autre pic vers l'âge de 20 ans, 25 ans, où il y en a un peu plus fréquemment. Donc soit des hypos ou des hyperthyroïdies, des insuffisances ou des excès de fonctionnement. Donc là aussi, c'est des choses qu'on dépiste beaucoup en France parce qu'on a des examens qui sont très simples, des prises de sang, des échographies qu'on peut faire très facilement, qui ne coûtent pas très cher.
Alors docteur Lecornet, on fait le point aujourd'hui avec vous sur la thyroïde, sur les petits et les gros soucis qu'elle peut nous causer. L'un des plus fréquents, ce sont les nodules. C'est quoi les nodules ?
Les nodules, c'est des boules dans la thyroïde. Donc par exemple, vous vous mettez de la crème le matin ou pour les messieurs, vous vous rasez, vous sentez qu'il y a comme une, quelque chose qui est gonflé au niveau du cou.
C'est
en
des
bas
petites
du
tumeurs
cou.
Ou pas?
C'est exactement, c'est des petites tumeurs et pour la plupart, c'est des tumeurs bénignes. On peut les sentir à la palpation à partir de 1 cm, mais parfois ça peut même être plus gros, 2, 3, 4, 5.
J'allais vous demander justement, quand on a des nodules, vous dites, bon, en se rasant ou en se touchant à la base du cou parce qu'on met de la crème, on peut sentir quelque chose, mais il y a d'autres symptômes, je ne sais pas, on peut avoir du mal à avaler, enfin, puisque ça se passe pas loin de la gorge, tout ça, est-ce qu'il y a une autre symptomatologie?
Oui, quand c'est très gros, parfois ça peut faire mal, ça peut appuyer, on peut être essoufflé en marchant ou en montant des escaliers, ou alors ressentir une gêne quand on avale. Donc c'est parfois aussi l'une des raisons à l'occasion desquelles on découvre. Et puis le plus souvent en fait, on ne s'en rend pas compte, et c'est parce qu'on a fait un autre examen, un scanner, une échographie pour autre chose, qu'on se rend compte qu'on a des nodules. Ou alors quand dans sa famille, on sait qu'on a déjà des nodules et du coup, on veut savoir soi-même si on en a.
Docteur Dimi Mohamed ?
Et effectivement, souvent, c'est des diagnostics un peu fortuits, par hasard. Sur une échographie, on tombe sur un ou plusieurs nodules et parfois même, on ne fait rien, on les surveille. Qui dit nodule ne veut pas forcément dire pathologie sous-jacente.
Oui, exactement. La plupart de ces nodules sont bénins. Parfois, ils peuvent un petit peu grossir, un petit peu diminuer de taille. Et en fait, vraiment, l'examen clé, c'est l'échographie. Actuellement, on a des échographies qui sont très très performantes, avec des experts souvent qui savent très bien analyser de manière fine ces nodules. Et en fonction de leurs caractéristiques, on peut arriver d'emblée à dire « eh bien non, ce nodule n'est pas inquiétant, on fait juste faire une surveillance simple avec des échographies ». Et c'est tout.
Et s'il est inquiétant, par contre, on traite et on fait quoi? Alors, on l'enlève, on essaie de s'en débarrasser quand même.
Alors, dans un premier temps, on va essayer de l'analyser de manière plus approfondie. Et pour ça, on peut faire une ponction. Donc, on prend une aiguille très, très fine qu'on va mettre dans le nodule. Alors, c'est un peu douloureux, mais pas tant que ça. Et on va retirer des cellules qu'on va analyser au microscope. Et parfois, en fait, même quand le nodule, il nous paraît pas très beau, en fait, ce nodule est bénin et on n'y touche pas. Par contre, si on a une inquiétude, des cellules suspectes ou des cellules cancéreuses, alors à ce moment-là, c'est forcément une opération qu'on va réaliser.
D'accord. Et donc l'opération, il y a plusieurs techniques. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, on n'a pas vraiment le temps, mais on peut faire comment? On ouvre? Enfin, pas toujours d'ailleurs.
Alors, le plus souvent, la technique classique, c'est d'ouvrir à la base du cou sur 4-5 cm et de retirer la moitié ou toute la thyroïde en fonction des cas. Mais maintenant, on a des alternatives pour éviter d'avoir la cicatrice au niveau du cou. On peut passer sous l'aisselle. Donc ça, c'est une technique qui est bien au point avec des robots. Et puis, il y a également des techniques toutes nouvelles où on peut passer derrière l'oreille ou dans la bouche aussi.
Ah ouais, d'accord. Et là, donc il n'y a plus de cicatrices, quoi.
Exactement. Donc il y a beaucoup d'avenir dans la chirurgie de la thyroïde, en tout cas.
Alors parfois, malgré tout, ce nodule, il est cancéreux. On le découvre à la biopsie. Donc c'est le cancer de la thyroïde. Là, il y a des symptômes. C'est un peu les mêmes au départ. Hein. C'est ça, quand on a mal à la... On a un nodule au départ.
On a un nodule, mais parfois, on ne peut rien sentir. Et alors, contrairement au cancer, habituellement, on dit « ah, je suis fatiguée, j'ai maigri, je me sens pas bien ». Le plus souvent, ça ne donne aucun symptôme.
D'accord.
Et c'est vraiment à l'échographie qu'on va mettre en évidence. La chose aussi qu'on peut avoir, c'est un problème de voix, la voix qui est cassée. Ça aussi, ça doit attirer l'attention. Ou alors parfois, si on a des ganglions dans le cou, des boules dans le cou, donc en dehors de la thyroïde, sur les côtés.
Il faut quand même rassurer nos auditeurs, ce cancer, on fera peut-être une émission spéciale dessus une autre fois, mais c'est un cancer de très bon pronostic, ça se traite. Hein.
Ça se traite très bien, il y a à peu près 10 000 cas par an et dans plus de 80% des cas, on est guéri. Et vraiment, il y a des taux de rémission très, 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 très élevés. Donc vraiment, on peut être rassuré, même avec ce diagnostic, on a une très bonne prise en charge à l'heure actuelle.
Docteur Le Cornet, nous allons poursuivre cet entretien juste après, bien sûr, on reste ensemble. De retour sur Europe 1 avec le docteur Dimi Mohamed et notre invité, le docteur Emmanuel Le Cornet-Socol. Elle est endocrinologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Docteur Le Cornet, aujourd'hui avec vous, on parle de thyroïde. On va attaquer là sur les problèmes les plus fréquents de dysfonctionnement de la thyroïde, l'hypo et l'hyperthyroïdie. Mais avant, juste, vous vouliez juste dire un mot sur les nodules, parce que vous n'aviez pas parlé d'une technique qui sert aussi à les retirer, je crois, la thermoablation, c'est quoi?
Oui, alors c'est le fait de brûler des nodules. Donc parfois, on peut avoir un très gros nodule. Il est bénin, donc ce n'est pas un cancer, il n'est pas inquiétant. Mais il nous gêne esthétiquement ou il fait mal. Et dans ces cas-là, on peut le brûler avec du laser, par exemple. On appelle ça la thermoablation. Ce sont des techniques qui sont faites désormais dans des centres de référence. Donc, il faut toujours avoir des experts qui prennent cette décision. Mais ça peut être une alternative pour éviter de se faire opérer.
Parfait. Alors, on va passer donc aux deux problèmes très fréquents de la thyroïde. Parfois, parfois c'est le dysfonctionnement, c'est qu'elle ne travaille pas assez, elle travaille en sous-régime, cette thyroïde, et c'est donc l'hypothyroïdie. Expliquez-nous ce qui se passe dans l'organisme quand on a ça.
Quand on n'a pas assez d'hormones thyroïdiennes, l'organisme va se mettre au ralenti. Donc on va être plus fatigué, on va avoir du mal à se concentrer, à avoir de l'attention, on peut prendre du poids. Le transit aussi est ralenti, le cœur a tendance à battre plus lentement. On a souvent froid, on est frileux. Et donc, c'est comme si on se mettait un peu en état d'hibernation. On a besoin de plus dormir. Donc ça, c'est l'hypothyroïdie. Et comment on fait le diagnostic? En fait, on fait une prise de sang et on se rend compte que l'hormone qui normalement commande la thyroïde, qui s'appelle la TSH, est très haute. Pourquoi? Parce qu'à la base du cerveau, on a une petite glande qui s'appelle l'hypophyse, dont le rôle est de contrôler toutes les glandes du corps. Et donc, elle va recevoir des signaux des organes. Et quand les organes envoient des signaux « Ah là, on manque d'hormones, il n'y en a pas assez », hop, elle va vouloir stimuler la thyroïde. Et c'est pour ça qu'on a des taux de TSH qui sont hauts.
Docteur Mohamed?
Et est-ce qu'on sait pourquoi justement cette thyroïde tout d'un coup va se mettre à moins bien marcher? Elles sont les causes dominées par des quoi? Des causes, le système immunitaire et les maladies auto-immunes, ou il y a d'autres explications?
Alors c'est ça. En fait, la plupart du temps, c'est une atteinte auto-immune. Qu'est-ce que c'est? C'est le système immunitaire. Normalement, il est là pour nous combattre contre les infections. On en entend beaucoup parler actuellement. Et bien là, en fait, le système immunitaire, il va se retourner contre soi-même. Et l'organe contre lequel il se retourne le plus souvent, c'est la thyroïde.
C'est ce qu'on appelle le Hashimoto, là, c'est ça?
Le Hashimoto, oui, la thyroïdite auto-immune. Alors le docteur Hashimoto, c'est le docteur japonais
qui a découvert ça.
Qui a découvert cette maladie et qui l'a décrite. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça.
Et c'était une maladie de l'adulte, hein, l'hypothyroïdie. Il n'y a pas d'enfants qui ont ça, a priori. Alors, sauf ce que vous avez dit tout à l'heure.
Très rare chez l'enfant. Ça peut arriver chez l'adolescent. Voilà, le plus souvent vers la cinquantaine, avec un pic d'apparition chez la femme jeune vers 20 ans également.
Jimmy?
Et le problème, c'est que souvent, le diagnostic peut être compliqué car les symptômes ne sont absolument pas spécifiques. Mais est-ce qu'il y en a quelques-uns qu'on peut retenir, qui sont un peu communs et qui devraient faire aux gens au moins une petite prise de sang, comme vous avez mentionné juste avant?
Oui, alors c'est vrai que c'est toute la difficulté, c'est que parfois on est très fatigué. Qui n'est pas fatigué en ce moment, a du mal à perdre du poids, etc. Il n'y a pas un symptôme qui va attirer. Peut-être la seule chose à laquelle il faut penser, c'est si dans votre famille, vous avez déjà des maladies de la thyroïde et qu'en plus, vous avez ces symptômes qui apparaissent alors qu'il n'y a pas d'autre raison et que même en vous étant reposé, en revenant, en rentrant de vacances, toujours le matin, vous avez du mal à commencer la journée. Là, ça peut être le moment d'aller voir votre médecin et de vérifier
cela. Parce que l'hérédité, c'est un vrai facteur de risque. On a eu une question justement sur Twitter d'une auditrice qui dit « Moi, mes sœurs, mes deux sœurs, on a des problèmes, pas les mêmes d'ailleurs, mais on a des problèmes de thyroïde dans la famille. » C'est souvent familial comme ça. Hein.
Très souvent, quasiment systématiquement, quand je vois un nouveau patient, il me dit « Mais en fait, j'ai ma mère, ma sœur, mon... » Ça peut arriver aussi chez les hommes, bien sûr, mon père qui a un problème de thyroïde.
Alors, on va pas revenir sur la polémique. Il y a un traitement qu'on donne beaucoup aux patients qui ont ce problème-là, le lévothyrox. On va pas revenir sur la polémique qu'il y a eu il y a quelques temps parce qu'on a changé un peu la formulation de ce médicament. Pour vous, ça reste le médicament de référence dans le traitement de cette maladie?
Oui, alors la lévothyroxine, ce sont des hormones thyroïdiennes. On a la chance d'avoir un traitement qui en fait va remplacer la thyroïde qui ne peut pas fonctionner. On n'arrive pas à guérir la thyroïde. On ne dispose pas de médicaments qui peuvent empêcher le système immunitaire d'attaquer la thyroïde. Donc on la remplace. Et l'avantage de ce médicament, c'est qu'il peut être pris à très long terme. Alors il y a eu des problèmes parce qu'il y a eu des patients qui ont mal toléré le changement d'excipient.
Voilà, c'est ça, changement de formulation exactement.
Voilà, pour un certain nombre de patients, ça a été très difficile. Et heureusement, on a maintenant à notre disposition d'autres marques avec différents excipients. Et grâce à ce panel, la plupart des patients arrivent maintenant à retrouver un nouvel équilibre. Et j'en profite pour préciser que l'ancienne formule du médicament, actuellement commercialisée en France sous le nom de Lethyrox, la production va être arrêtée en septembre. Et donc j'invite les patients à aller voir leur médecin pour voir comment les aider éventuellement à trouver un autre médicament qui va pouvoir leur correspondre, avec bien sûr un accompagnement pour ceux qui ont beaucoup souffert à ce moment-là.
Bien sûr. Alors on va passer à l'autre problème qui est donc l'hyperactivité de la thyroïde. Là c'est l'hyperthyroïdie. Là c'est quoi les symptômes?
Alors c'est tout l'inverse. C'est tout d'un coup tout s'accélère. Vous vous retrouvez à, un peu comme une pile électrique. Je deviens très irritable, je me mets à perdre du poids, j'ai tout le temps chaud, j'ai la diarrhée et j'ai des palpitations. Peut-être que c'est le symptôme qui revient le plus souvent, la sensation que le cœur bat très vite dans la poitrine. Des tremblements. Là, il faut attirer, il faut avoir l'attention attirée, il faut aller consulter son médecin aussi.
Et ça, pareil, c'est une prise de sang, hein, c'est ça?
C'est une prise de sang. Et là, la TSH, elle va être très basse. L'hormone qui contrôle la thyroïde va essayer de bloquer la thyroïde en lui disant « Stop, arrête-toi, arrête de fonctionner ». Et c'est pour ça qu'elle est très basse.
Jimmy?
Et justement, vous avez un petit peu annoncé la chose, c'est qu'il faut ralentir cette thyroïde qui marche trop rapidement. Et le traitement consiste en quoi? C'est des médicaments un peu particuliers?
Alors, tout dépend de la cause. On va dire qu'il y a deux grandes causes. La première cause, c'est aussi une maladie auto-immune. Celle-là, on l'appelle la maladie de Basedow. parce que c'est le docteur Basdeau qui l'a décrite. La thyroïde est souvent gonflée. Quand on fait une échographie, on voit qu'il y a beaucoup de sang, elle est très inflammatoire. Et puis on peut aussi avoir les yeux qui sont atteints avec des yeux exorbités. Et donc dans ces cas-là, on donne des médicaments qui vont bloquer la thyroïde et on les donne pendant plusieurs mois, pendant 12 mois, 18 mois. Et souvent, à l'arrêt du traitement, la maladie est terminée. Et puis il y a certains cas où la maladie, malheureusement, elle revient. Ou alors il y a d'autres causes. Par exemple, c'est un nodule cette fois-ci. Il y a certains nodules qui peuvent se mettre à trop fonctionner. Et à ce moment-là, on a d'autres traitements qu'on utilise dans le but de détruire la thyroïde. Soit on opère, on enlève la thyroïde. Soit on va la brûler avec de l'iode radioactif, l'iode 131.
D'accord. Et ces problèmes, d'ailleurs, que ce soit hypo ou hyperthyroïdie, il faut quand même dire, c'est vrai, hein, parce que les patients qui l'ont vécu le savent, c'est pas facile parfois de trouver le bon traitement, c'est-à-dire le bon dosage. C'est des médicaments très fins, hein, donc parfois vous mettez du temps avant de trouver le dosage qui correspond bien au patient. Hein.
Oui, souvent quand on apprend les études de médecine, on dit, eh bien, il faut regarder les prises de sang et on adapte en fonction des prises de sang. Oui, il faut regarder les prises de sang, mais il faut aussi savoir bien interroger et examiner son patient pour pouvoir ajuster le traitement au mieux. Parce que pour certains, l'équilibre va être un peu difficile. C'est ce qu'on appelle des médicaments à faible marge thérapeutique. Le moindre petit changement peut entraîner des modifications importantes de ressenti chez le patient. Donc il faut toujours rester attentif à ça. Et c'est vraiment un dialogue entre le patient, le médecin et les résultats qui va permettre de mieux adapter le traitement.
Une dernière question, Jimmy ?
Oui, j'ai l'impression de voir de plus en plus de problèmes de thyroïde. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce que c'est en augmentation ? Est-ce qu'on aurait une explication à cette augmentation ?
Oui, il y en a de plus en plus. Alors, il y a deux explications. La première, c'est qu'on les dépiste très facilement. Comme on le disait tout à l'heure, ce sont des prises de sang faciles à faire, qui ne sont pas très coûteuses. Les médecins sont bien formés sur le fait qu'il y a beaucoup de problèmes de thyroïde, donc ils ont tendance à le dépister beaucoup. Après, il y a une interrogation à savoir est-ce qu'ils augmentent vraiment, et c'est aussi peut-être à cause de certains perturbateurs endocriniens qui pourraient atteindre la thyroïde ou en tout cas entraîner une augmentation de l'auto-immunité envers la thyroïde. Donc il y a encore beaucoup de recherches, c'est des vraies interrogations qu'on a là-dessus.
Merci beaucoup docteur Lecornet-Sokol d'être venu sur notre plateau. Grâce à vous, on sait tout ce qu'il y a besoin de savoir sur cette glande et ses dysfonctionnements. Pour ceux qui en voudraient en savoir plus, je rappelle le titre de votre livre, et si c'était hormonale, chez Hachette Bien-être, un ouvrage que vous avez écrit avec Caroline Balma-Chaminadour. Merci encore. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed qui est en train de se foutre de moi.
Non,
parce
non, mais
que
votre
je
présentation
de désir
était mis d'amour,
d'amour
inconditionnel.
Mais on passe à la chronique sexo après
et
tout,
vrai,
on peut.
Hein,
c'était logique, c'était une belle entrée en matière. Merci exactement. Catherine, on vous a entendu, donc vous êtes là avec nous dans ce studio. Je rappelle, vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour à tous les deux, je suis ravie de vous retrouver.
Bonjour Catherine.
C'était une belle entrée en matière, non?
Mais formidable, hein, parlons de musique, désir, parlons d'amour.
C'est ça, vous êtes là pour ça.
Voilà, exactement.
Très bien. Alors je vais vous dire.
Prédilection.
On va répondre à la
je
question.
Je sais parler d'autre chose, mais j'adore ce sujet.
Très bien. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler tout à fait de ça, puisqu'on va parler, on va répondre donc à la question d'Alexis. Alexis, il a 27 ans, je vais vous la lire. Une question un peu particulière. Alors il nous dit donc, Alexis, depuis quelques temps, il m'arrive d'avoir des éjaculations nocturnes. Cela arrive toujours lors d'un rêve érotique, après tout suite, question de désir. Comment l'expliquer, Catherine ? D'abord, est-ce que c'est très fréquent ce type de problème d'éjaculation nocturne, certaines parlent de pollution nocturne.
Oui, c'était ce qu'on disait pudiquement, effectivement. D'ailleurs, ouais. Pollution, on disait long sur l'accueil qu'on avait de la sexualité, comme si c'était quelque chose de sale. Donc, évidemment que ce sont des choses qui arrivent et qui arrivent principalement chez les jeunes gens. Parce que
il a 27 ans, hein, il est jeune, ouais, effectivement.
Mais même chez les hommes adultes, dans la mesure où, de toute façon, un homme, dans sa nuit, connaît des moments d'érection assez importants, qui est un relâchement musculaire, donc des petits muscles qui sont dans les vaisseaux qui permettent, du coup, une érection à ce moment-là, puisque c'est le sang va être gardé prisonnier dans la verge, et du coup, ça va entraîner une érection qui, si elle va jusqu'au bout, si l'homme n'est pas réveillé, ou si... elle s'est accompagnée, pourquoi pas, d'un rêve érotique. D'ailleurs, on croit souvent que c'est le rêve érotique qui est à l'origine de l'érection.
Et pas toujours.
Alors que c'est souvent l'érection qui amène la fabrication du rêve érotique. C'est plutôt, souvent
c'est plutôt
l'inverse qui se produit.
Jimmy ?
Moi, je pensais que ça touchait les petits ados prépubères un peu excités par des catalogues à l'époque. Non, c'est plus des catalogues, ils vont autre chose.
Il n'y a plus que la redoute. Ouais, il y a eu vrai. La redoute, mais...
mais que, du coup, ça touchait plutôt les adolescents, 15-16 ans, et pas forcément les hommes de 27 ans. Est-ce que, je ne sais pas, à 50 ans, on peut avoir... ou même à 60, est-ce qu'il y a un âge alors, du moment où ça s'arrête.
Ça, alors, en général, effectivement, c'est vrai que ce sont plutôt les ados, tout simplement parce que c'est un sujet de questionnement extrêmement intense. Et comme ils n'arrivent pas à le trouver, à l'aboutir dans le réel de leur quotidien, eh bien, dans la nuit, leur pudeur étant en berne, eh bien, tout d'un coup, tout s'exprime un peu plus fortement. Et du coup, c'est en effet là où ils connaissent leurs premières éjaculations. C'est souvent cette surprise, indépendamment de leur contrôle, qu'ils vont après réitérer au travers d'une masturbation qui leur fera retrouver cette éjaculation. Mais chez l'homme adulte, cela arrive aussi. Alors, il y a deux catégories. La catégorie des hommes qui sont aussi en difficulté avec la sexualité. Et donc, c'est ce refoulement très fort qui fait que, du coup, ça leur échappe.
J'allais vous dire, c'est pas un problème de frustration un peu dans la vie réelle, sexuelle, finalement, et qu'il la nuit, tout se lâche
Ça peut être de frustration par frustration de vie sexuelle, mais pas tellement parce qu'il y a de l'abstinence. C'est de frustration dans le rapport à soi et la sexualité. C'est pas parce qu'on ferait pas l'amour qu'on se met à éjaculer n'importe quand. D'accord. Vous voyez, c'est pas du tout ça. Un homme, c'est pas non plus parce qu'à force de ne pas faire l'amour, il y aurait une réserve de spermatozoïdes qui n'attendrait qu'une chose, c'est à sortir, ce qui n'est pas vrai, puisqu'elle s'élimine automatiquement, même s'il n'y a pas d'éjaculation, par le biais de la vessie. Donc de toute façon, ça n'est pas du tout dû à ça. C'est simplement une difficulté parfois à s'approprier son corps et sa sexualité. C'est pour ça que, pas que dans la nuit, il y a des hommes qui, dans la journée, connaissent des érections indépendamment d'un éveil érotisé par une relation, et même allant jusqu'à une éjaculation, ce qui a plutôt tendance à les inquiéter parce qu'ils ont le sentiment de perdre la maîtrise d'eux-mêmes.
Jimmy ?
Mais là, Alexis, il n'a pas l'air très perturbé par ce qui lui arrive, mais est-ce que ça peut être un problème ? Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ce phénomène ? Si ça devient assez récurrent.
Alors, s'inquiéter, non. Simplement, ça pose la question de quelle est la sexualité par ailleurs. D'ailleurs, ce n'est pas du tout problématique d'avoir une sexualité qui... Alors, d'abord, un corps qui se met en route et qui check que tout va bien, une érection qui se fait et qui va jusqu'à l'éjaculation, peut-être d'ailleurs avec un support érotisé, d'un rêve érotique. D'ailleurs, il y a la même chose chez les femmes.
J'allais vous le demander, est-ce que c'est quelque chose d'uniquement masculin ? Alors, certes, il n'y a pas d'éjaculation chez les femmes, mais il peut y avoir des orgasmes nocturnes en dormant.
Bien sûr. Et que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, sans masturbation. C'est-à-dire, c'est vraiment parce que c'est rejoint par l'éveil érotique, par le rêve érotique qui raconte toute une petite histoire, dans le film qui est dans la tête, il y a des corps qui se touchent ou des corps qui sont touchés qui amènent à cette éjaculation ou à cet orgasme féminin. Donc c'est vrai qu'on retrouve ça chez les hommes et chez les femmes et ça n'est pas un problème. Après, ce qui est un problème, c'est à partir du moment où il y a un décalage total entre la tranquillité et la sérénité que nous avons dans notre vie érotique, dans notre façon de faire l'amour, dans notre liberté de le faire et dans la capacité aussi à le refouler si ce n'est pas le moment. Et tout d'un coup, des moments où le corps ne répond, a le sentiment d'être. Enfin, la personne a le sentiment que son corps réagit tout seul, part tout seul, en vrille, ou l'oblige à vivre des choses que, pour X raisons, de culpabilité, d'interdit, on ne peut pas vivre dans son quotidien. Et c'est là que c'est ce décalage, c'est-à-dire une sorte de sentiment de culpabilité par rapport au sexuel qui émerge envers et contre tout, qui est perçu comme étant une source d'anxiété.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils. On se retrouve demain pour les meilleurs moments de Sans Rendez-vous. Dans un instant, 2 heures d'évasion s'offrent à vous avec Philippe Googler avec son émission Et si on partait ? Tous les jours du voyage au bout du monde et aussi en France. On va parler région, patrimoine, gastronomie. Je vous souhaite une très belle émission.